Je vais vérifier ça.
Je vais passer ce coup de fil.
Je vais le maintenir en vie. Le maximum de temps.
Je vais déjeuner.
Libre Radio, la radio qui remet le couvert. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes toujours en direct et en public depuis La Tortue, au 154 route de Malagnou, à l'occasion du 5e anniversaire du journal Moins, que l'on salue et auquel on souhaite des années de bien-être, de force, de courage. Et on va juste donner quand même le site internet www.décroissance.ch. C'est là où on trouve les informations concernant le journal, qui a un site spécifique également. Mais on y trouve, hein, puisque c'est un journal d'écologie politique, moult arguments qui y sont traités. Nous sommes maintenant en compagnie de Françoise Berthoux. Bienvenue.
Merci.
Nous sommes ravis. Alors évidemment, on t'a fait un petit peu patienter parce que ben voilà, la conférence a duré un peu longtemps. On avait cet argument antispéciste qui était voilà, un peu dans l'actualité. Et ces personnes venant de Lausanne sont venues justement nous expliquer ce qui leur était arrivé lors de cette manifestation de hier. Mais voilà, maintenant on a un petit moment vraiment juste pour nous. Temps qui va nous être, que l'on va consacrer à l'autisme, puisque toi-même tu es médecin de formation.
Oui, tout à fait, je suis pédiatre homéopathe et très très longtemps je me suis occupée des vaccinations et des méfaits des vaccinations. Et depuis un ou deux ans, je suis un peu fatiguée de ce sujet dur. Et je me suis surtout occupée à l'épidémie d'autisme actuelle. En fait, l'autisme. Chacun sait que je m'occupe de l'autisme des enfants, des
voilà.
petits enfants.
Alors c'est
pas,
bien si tu voilà si tu nous expliquais un peu ce qu'est l'autisme pour bien préciser ça pour que toutes les auditrices
voilà,
auditeurs.
Donc c'est des enfants qui ont peu de communication possible, qui souvent ne parlent pas ou alors répètent toujours la même chose et ont des gros problèmes de développement.
Très bien.
Et de comportements.
Oui. Et juste une question. Quand, à quel moment? Et comment est-ce que l'on détecte un enfant, disons, dans une situation problématique délicate?
Alors, moi, ce dont je me suis surtout occupée, c'est des autismes secondaires, c'est-à-dire des enfants qui sont en apparence très très bonne santé, qui apprennent à marcher, à commencer à parler éventuellement et qui jouent normalement, et qui, après un événement, on en parlera, tombe dans ce qu'on appelle le spectre autistique.
D'accord.
C'est-à-dire que ces enfants, et bon, il faut le dire, c'est souvent après une vaccination.
D'accord,
mais
oui, alors,
il
ne
faut pas non plus penser que c'est que la vaccination qui cause cet autisme. Parce qu'en fait, ce qu'on pense, c'est que l'autisme actuel, qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'il y a 50 ans quand il a été décrit, est en fait une maladie de civilisation, une maladie de pollution. Les enfants d'aujourd'hui, c'est déjà la deuxième génération en fait, sont bourrés de pesticides et de différents métaux lourds et aussi très, très attaqués par l'agressivité très forte des télévisions, de toutes les ondes électromagnétiques. Hein. Et tout ça, c'est pas très bon pour le cerveau.
D'accord. Est-ce que également les contenus comptent? Ce que je veux dire par là, c'est que y a-t-il une composante dans la maladie ou dans son déclenchement qui n'est pas environnementale, disons à proprement parler. Enfin, si environnementale, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas dû par exemple à des. On pourrait dire que des gaz à particules provoquent des choses, des virus provoquent des choses, des bactéries, mais est-ce que ça pourrait être également de l'ordre de la stimulation par des écrans, le fait que ces enfants jeunes sont souvent extrêmement stimulés, surstimulés, j'ai envie de dire, par des choses brillantes qui.
Oui, justement, c'est ce qu'on pense, c'est que il y a des facteurs pluriels. Hein.
Oui.
Il y a.
Bien, voilà, ton micro comme ça, voilà, super.
Il y a les pollutions de l'environnement au niveau matériel, hein, les métaux lourds, les pesticides et compagnie. Et puis, il y a aussi toute une série de facteurs sociaux et surtout les ondes électromagnétiques.
D'accord. Est-ce qu'on a pu constater l'évolution de cette maladie au travers des âges? Tu l'as déjà dit, donc il y a plus d'autisme secondaire qui apparaissent. Et est-ce que ça touche une tranche d'âge différente? Est-ce que peut-être que cette tranche d'âge s'est élargie? Est-ce qu'il y a plus de... ça a surgi plus tôt et plus tard? Où est-ce qu'on en est par rapport à ça?
Alors, au niveau statistique, la courbe est claire. Il y en a de plus en plus. Chaque décennie, il y en a de plus en plus. Et actuellement, aux États-Unis, ils disent un enfant sur 60. Il y a même des communautés où c'est un enfant sur 30. Parce qu'il y a aussi un facteur génétique. Il y a des familles qui sont plus prédisposées que d'autres à tomber dans l'autisme, en fait. Hein.
D'accord. Quels sont les signes? Voilà, si là une jeune maman, un jeune papa nous écoute, quels sont les signes auxquels ils doivent être extrêmement attentifs pour pouvoir déceler peut-être les premiers éléments et lorsque l'on constate ces signes-là, que doit-on faire selon toi?
Alors, donc, j'ai déjà dit ce dont je m'intéresse, ce que j'ai étudié en fait,
oui.
C'est l'autisme régressif. C'est-à-dire qui arrive chez un enfant qui était bien avant. Et ça, c'est assez facile. Hein. Les parents, ils voient
ça
bien.
Se voit, oui. Parce qu'on voit tout d'un coup un enfant en pleine santé, voilà. Qui dépérit.
Il a des gros problèmes intestinaux, il doit souvent être sous antibiotiques, il y a plein de choses qui se passent. Et en même temps...
il se recroqueville.
En même temps, il développe les signes du spectre autistique.
Ouais.
Alors ça, c'est facile. Il existe aussi des enfants qui sont autistes depuis la naissance. Et c'est un problème plus délicat, en fait, pour savoir. Mais ce que j'ai étudié, c'est les parents qui savent. Ils savent. Depuis le vaccin, hop, ça a changé.
Ouais.
Et souvent, le tragique, c'est que souvent, ils vont chez le médecin et ils disent ça. Et le médecin, non, il n'est pas d'accord, il n'y croit pas. Parce que pour lui, le vaccin, il a appris que c'était une bonne chose, ce qui peut l'être parfois, peut-être. Mais les parents sont en fait en face de deux tragédies. Il y a la tragédie de leur enfant. Parfois, ils disent « j'ai perdu mon enfant », leur enfant qui a perdu les facultés de communication. Et le médecin qui fait la sourde oreille.
Oui.
Alors ça, c'est vraiment... Quand on lit des témoignages de parents d'enfants autistes, c'est ça, c'est le double problème. Quoi.
Oui. Alors voilà, toi, tu as publié un livre dont le titre est « Autisme, le grand espoir d'en sortir ».
Voilà.
Ça, c'est parce que pour toi, il fallait communiquer, il fallait le dire, il fallait alerter les personnes.
C'est ça. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler sur un sujet positif. Et maintenant, il y a des centaines, des milliers de familles où, en adoptant une thérapie dont je vais parler, l'enfant sort soit rapidement, soit lentement de son état autistique. Mmh. Alors la première chose, disons, qu'on sait, c'est que le tube digestif des enfants autistes est souvent malade, souvent trop poreux, et qu'un changement d'alimentation les améliore grandement. Donc le classique, c'est pas de gluten et pas de produits laitiers de vache. Et certains enfants, ça suffit déjà pour les améliorer grandement.
Donc quelque chose comme un régime quasiment végétarien serait recommandé, conseillé?
Non, certains thérapeutes, au contraire, ont des régimes très carnés. Mais ce qui est important, c'est éviter le gluten, donc le pain, et puis la caséine, donc les produits laitiers de vache.
D'accord. Et ça, on sait pourquoi? Parce que ce sont deux éléments,
oui.
La caséine, par exemple, qui...
On sait pourquoi, tout à fait. On sait donc que le tube digestif de ces enfants est trop poreux et que ces molécules, le gluten, la caséine, qui normalement devraient rester dans le tube digestif, passent dans la circulation sanguine. Et dans la circulation sanguine, ils vont au cerveau, d'autant plus que le bain d'ondes électromagnétiques dans lequel on est tous, et puis ces enfants, certains enfants encore plus, permet la perméabilité entre le sang et le cerveau. Donc il y a la perméabilité intestinale, tube digestif sang, qui est augmentée, et la perméabilité de la barrière sang-cerveau, qui est aussi pathologique. Donc double perméabilité et le cerveau il en prend un
sacré coup. Ouais. Alors j'ai pas dit l'ensemble du titre, mais c'est autisme, le grand espoir d'en sortir, avec en sous-titre prévention, alimentation et traitement détoxifiant. Est-ce à dire que lorsque l'on... Alors on a bien compris pour la prévention d'essayer de se sortir de de ce... Mais c'est difficile en même temps, parce qu'on est, on baigne.
C'est ouais. Le plus bio possible au niveau de l'alimentation, le régime, justement. Par exemple, si la maman avait beaucoup d'amalgame dentaire, l'enfant peut être bourré de mercure. Il y a des techniques de détoxication des métaux lourds.
Ah voilà, alors quelles sont-elles ces techniques? Justement, là aussi, ça passe par l'alimentation. Est-ce qu'il y a également des exercices que l'on peut faire? Le fait peut-être d'être moins sédentaire aidant, ou je ne sais pas?
Non, c'est plutôt un travail sur le corps physique.
D'accord. Donc vraiment, c'est l'alimentation joue un rôle majeur.
L'alimentation, et puis la grande prudence par rapport aux ondes électromagnétiques.
Oui.
Hein, par exemple, avoir une discipline de télévision, etc., etc. Un interrupteur général le soir dans la maison, des choses comme ça. Des différentes choses qu'on peut faire par rapport à la protection des ondes électromagnétiques.
Ouais. Est-ce que c'est extrêmement... Alors, parce que ce que je me dis, c'est qu'au travers des âges, on va vers toujours plus de Wi-Fi, toujours plus d'ondes. Les gens sont connectés quasiment H24, dorment avec leur téléphone. Voilà. Selon toi, est-ce que nous sommes à l'aune d'un réel problème de santé qui va nous tomber dessus?
Oui, alors ça, c'est pas seulement par rapport aux autistes, ça, c'est par rapport à tout le monde. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment une conscience à avoir des dangers de ces ondes, une discipline à avoir, je sais pas, pour un gamin, une demi-heure par jour. Et puis au lieu de regarder des dessins animés, lire des bouquins avec lui, enfin des choses comme ça.
Hein. Ouais, ouais. Parce que sinon, comment peut-on se protéger de ces ondes? Il n'y a pas vraiment... Il faut s'en éloigner.
Il y a des gens qui vendent des appareils de protection, c'est assez discuté, mais ça
D'accord.
existe.
Mais ça existe.
Ça existe, ouais.
Quels sont ces types d'appareils, juste pour par curiosité?
Par exemple, il y a des balles d'Aquin, c'est-à-dire comme une moustiquaire.
D'accord. Ah, qui peuvent arrêter peut-être...
Qu'on peut mettre au-dessus des lits.
Ouais.
Qui sont des tissus imprégnés de certains métaux, je ne sais pas les détails. Et ça fait une grande différence d'intensité des vibrations.
D'accord, ça réduit en tout cas l'impact. Oui. Ouais.
Et des peintures aussi.
Ah, des peintures.
Des peintures aussi métalliques. Voilà. Mais le mieux, c'est de faire attention déjà, de diminuer.
Tout à fait, oui.
Pas donner un portable à un gamin.
Exactement. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, réguler les horaires, pas plus de temps.
La distance à l'écran aussi.
La distance à l'écran. Et dis-moi, est-ce que selon toi, parce que j'ai entendu ça, mais je ne sais pas si c'est la réalité, si c'est vrai, le fait de limiter les ondes Wi-Fi, par exemple, à la maison, plutôt que d'avoir un abonnement Wi-Fi pour les 3 ordinateurs de la famille, de garder peut-être le câble, ça change quand même quelque chose ou finalement, ça n'a pas vraiment d'influence?
Si, par exemple. Ouais.
D'accord, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, c'est plutôt que d'installer du Wi-Fi partout.
Ouais.
D'accord. Et puis alors, sinon, c'est l'alimentation. Là, il y a vraiment un enjeu majeur.
Ouais.
Quand tu parles dans ton livre, on va rappeler le titre, livre, donc Autisme, le grand espoir d'en sortir, avec en sous-titre Prévention, alimentation et traitement détoxifiant. Donc c'est paru aux éditions Jouvence Santé. On le trouve un petit peu partout?
Oui, Jouvence, c'est très
en librairie.
Bien distribué.
D'accord,
oui.
Il est très bien distribué. Alors,
il n'est pas très cher en fait.
Tu veux dire
il
le
est à 15 francs.
Effectivement, il n'est pas très cher. Les traitements détoxifiants, quels sont-ils? S'il y avait quelque chose à recommander aux personnes qui nous écoutent et si elles souhaitaient immédiatement changer quelque chose dans le régime alimentaire de leurs enfants.
Alors, ce que peut faire le parent, c'est sans gluten, sans caséine.
Oui.
Mais la détoxification doit se faire avec un thérapeute.
D'accord. Donc ça, c'est un accompagnement. La personne consulte et puis tu mets en place...
Les naturopathes, c'est pas les médecins. Hein. Il y en a très peu qui sont au courant, mais les naturopathes.
D'accord. Et alors là, peut-être que dans le livre, y a-t-il quelques liens, quelques adresses ou quelques conseils de ce type-là pour inviter les personnes à aller voir les bonnes personnes?
Non, pas nominément, mais il y a des sites qui sont cités. Il y a beaucoup de renseignements sur Internet.
Oui. Parce que voilà, c'est
ce
que je me disais.
Il y a une personne en particulier qui s'appelle Senta Depuy, D-E-P-U-Y-D-T,
okay.
Qui est une journaliste belge, dont l'enfant, à l'âge de 3 ans, a sauté dans l'autisme après un vaccin. Et maintenant, il a 10 ans. Non, il a 13 ans, pardon, c'est 10 ans, on est 10 ans après. Et elle a bossé vraiment énormément en allant partout, en allant aux États-Unis voir ce qu'il faisait et tout ça. Et il est parfait, son gamin.
D'accord. Voilà, ça c'est bien parce qu'effectivement, sur le
net, elle a un site. Elle a un site justement à son nom et le grand espoir de sortir de l'autisme, c'est son site. Ah, et là, il y a beaucoup de renseignements.
Oui. Oui, parce que certaines personnes pourraient nous dire oui, mais sur Internet, on trouve le pire et le meilleur. Donc il faut qu'on fasse attention aussi à ce que ce ne soit pas des choses, disons. Voilà, un peu. Voilà. Ouais. Quelques mots de la préface. La préface du livre est due au docteur Corinne Skorupka et au professeur Luc Montagnier.
Voilà.
D'illustres personnes.
Alors, le professeur Luc Montagnier, c'est quelqu'un vraiment d'intéressant. Mmh. Donc, en 2008, il a reçu le prix Nobel pour la découverte du virus du sida. Et c'était un homme de laboratoire. Et actuellement, il dit des choses intéressantes sur le sida. Croit encore vraiment que c'est un virus, ce que d'autres gens discutent. Mmh. Il dit qu'un porteur de virus du sida qui est bien nourri et en bonne santé n'a aucun problème.
Voilà, exactement. Voilà. Tout à fait.
Donc il s'est intéressé pas seulement à son petit virus, mais à tout ce qui se passe dans la vie des gens. Et il s'est intéressé aux enfants autistes. Et avec des Américains, avec d'autres gens, ils ont étudié la flore intestinale, on appelle ça le microbiome maintenant, la flore intestinale des enfants autistes, qui est très perturbée et souvent pleine de certaines bactéries, en particulier une qui s'appelle la Sutturella, qui est pour moi c'est une nouveauté. Et ils ont fait des expériences en voyant qu'en donnant certains antibiotiques ciblés à ces enfants, ils avaient des améliorations du comportement.
D'accord.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire, parce que en général, en tant qu'homéopathe ou naturopathe, on n'aime pas trop les antibiotiques. Mm-hmm. Mais là, il semble que ce soit une partie de l'espoir, en fait.
Okay.
Mais ce qui est intéressant avec ce professeur Montagnier, c'est qu'il a vraiment changé sa manière de voir la santé et la médecine. Plutôt que d'être un bonhomme de laboratoire, maintenant, il parle de médecine participative. Mmh. C'est-à-dire que le patient participe, que le parent de l'enfant autiste participe et tout ça.
C'est extrêmement intéressant de suivre ces travaux. On trouve d'ailleurs des vidéos sur YouTube, là en l'occurrence on va faire la pub pour YouTube, mais concernant effectivement les travaux également sur l'homéopathie. Donc, que le professeur Montagnier
sur
la mémoire de l'eau.
Oui, voilà, exactement. Il part de la mémoire de l'eau pour faire ses diagnostics de bactériologie.
Ouais.
Donc là, il revient à cette idée que l'homéopathie marche même s'il n'y a plus de matière.
Mmh. Alors, revenons au livre. Donc, autisme, le grand espoir d'en sortir. Alors, les vaccins, voilà. Selon toi, les vaccins sont parmi les déclencheurs.
Mm-hmm.
Je dis bien parmi les déclencheurs, ça n'est pas, comme tu l'as bien dit, bien précisé, ça n'est pas la raison unique. Mais alors, que faut-il faire? Est-ce qu'on vaccine plus? Est-ce qu'on vaccine moins? Est-ce qu'on vaccine différemment? Quelle est la solution?
Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur obtenir des vaccins non dangereux.
D'accord.
L'aluminium,
ça, c'est une des pistes.
Ça, c'est une des choses qui peut être pour l'avenir. Mais je pense qu'une des choses graves dans notre société, c'est l'accumulation. D'abord, c'est le fait qu'on vaccine très, très tôt. Et puis, l'accumulation des vaccins. Et par rapport à ce fameux autisme régressif, celui qui a été le plus étudié, c'est le vaccin rougeole au rayon rubéole. C'est là qu'il y a eu plein de controverses au sujet des gens qui avaient décrit ça.
Alors ça veut dire que selon toi, on vaccine trop tôt et de manière trop prolixe?
On vaccine très tôt, trop tôt pour nous. On vaccine abondamment. Peut-être qu'un vaccin par-ci, par-là, de temps en temps, peut être efficace.
Mm-hmm.
Mais tout d'un coup, 11 vaccins, comme les Français prévoient de le faire à partir du 1er janvier de l'année prochaine.
Pour toi, là, ça contient un problème de santé publique, ça, potentiellement?
C'est vraiment
c'est trop.
Une bombe pour un tout petit enfant.
J'imagine, hein, parce que finalement, ce qu'on appelle la vaccine, finalement, c'est une partie de la maladie qui est quand même inoculée.
Oui, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est les addictifs, comment ça s'appelle, toutes les choses chimiques qui sont avec
joints,
mercure, etc.
D'accord. Et ça, c'est obligatoire dans tous les vaccins qu'il y ait ces produits supplémentaires qui.
Ce serait très, très, très cher d'avoir un vaccin très pur, sans mercure qui est là pour désinfecter, etc. Alors, et en plus, dans cette histoire de rougeole, oreillon, rubéole, c'est trois virus vivants, en fait. Et les gens qui ont travaillé ça disent quand même l'attaque de trois virus vivants sur un tube digestif d'un enfant d'une année à peu près, c'est assez agressif.
Oui, c'est ça, c'est assez agressif. Alors, quels sont tes conseils? Est-ce qu'il faut effectivement peut-être ces vaccins-là, les mettre un peu en demeure, en trouver d'autres qui soient efficaces de la même manière, mais qui n'aient pas ces composants nuisibles, nocifs?
Alors bon, moi personnellement, après 30 ans de réflexion sur les vaccinations, si j'avais un enfant dont je suis responsable maintenant, je ne lui ferais aucun vaccin.
Aucun, du tout, du tout.
Je ne crois à l'utilité d'aucun vaccin, même pas du tétanos. Mais bon, je suis très radicale. Je ne peux pas penser que les gens autour de moi vont suivre cela. Donc je leur dis, voilà, ça c'est possible de vivre sans vaccin. Du reste, il y a des livres, vivre sans vaccin, etc. Des centaines de familles qui font ce choix et qui témoignent. Mais bon, c'est difficile avec les peurs de notre société, avec les tensions, l'influence du corps médical et tout ça. Donc, mon conseil, c'est le plus tard possible et le moins possible à la fois. Conseil qui est possible dans un pays comme la Suisse où il n'y a pas de vaccin obligatoire.
Tout à fait.
Mais si on se trouve en face de loi coercitive, là, c'est difficile.
Et alors, on a bien compris tes conseils. Et pour les familles, où est-ce qu'elles peuvent également trouver ce type de conseils-là? Alors, effectivement, on trouve ça dans ton livre. Hein, mais est-ce que, selon toi, un médecin de famille, disons, usuel, en guillemets, je veux dire, normal...
Lambda,
merci beaucoup. Un médecin de famille lambda pourrait... être amené à... Enfin, pourrait opérer ce genre de conseil-là. Ou est-ce que la famille doit aller voir ailleurs, quand même?
C'est très, très rare. Il existe des médecins généralistes ou pédiatres qui un peu ferment les yeux sur l'enfant non vacciné. Mais disons, le plus facile, c'est d'aller voir les sites.
D'accord.
Donc, infovaccin.ch, c'est notre petit site suisse romand. Infovaccin.fr, c'est le site français. Et puis, par rapport à l'autisme, alors le site de Senta, c'est vraiment très important.
D'accord. Je te remercie beaucoup, Dr Françoise Berthoud, pour tous ces conseils que tu nous as délivrés ce soir. Y aurait-il quelque chose que l'on n'aurait pas mentionné et qu'il faudrait absolument dire là, maintenant, à l'adresse, justement, de toutes les personnes qui sont sensibles à cet argument et même à celles qui ne le sont pas sensibles? Ce serait d'ouvrir les yeux, de regarder autour d'elles, d'observer. Ce serait quoi les conseils que l'on donnerait?
Ce que je pourrais dire, c'est qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas la seule famille qui se fait rigoler au nez quand on va chez le médecin en disant ça depuis le vaccin. Il y en a des centaines, il y en a des milliers. Pour les gens qui sont anglophones, qui lisent l'anglais, c'est encore plus facile parce que alors là, c'est bourré de sites très importants. Et puis voilà, le moins possible, le moins tôt possible, et puis le moins possible. Quoi.
Exactement.
Avec une hygiène de vie, bien sûr, alimentation, biologique si possible, etc. Quoi.
Tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu des retours de ce livre-là, de la part de personnes qui ont justement changé leur rapport au vaccin, leur rapport à l'alimentation, leur rapport à la santé en général, ou pas encore?
Non, j'ai pas eu de repart direct, mais j'ai eu un ou deux médecins, genre acupuncteurs, etc., qui m'ont dit « il est magnifique ton livre, je le conseille. »
Ah bah ça c'est super.
Je le conseille à tout le monde. Je l'ai écrit en fait, il est en deux parties, comme si c'était deux personnes qui avaient... Non, c'est moi qui ai écrit. J'ai écrit des chapitres informatifs, où c'est des fois un peu compliqué, et j'ai alterné avec des dialogues, des interludes, où en fait il y a deux mamans qui discutent, mon enfant, etc. Et là j'ai dit des choses que je ne pouvais pas dire dans le texte.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est une belle astuce.
Et j'ai eu du plaisir à écrire ça.
Alors ça c'est bien de le préciser, c'est que ça n'est pas que un livre technique, mais c'est aussi un livre qui se lit...
C'est facile à lire.
Tu as fait tout ce qu'il fallait pour le faciliter.
Le dernier chapitre, c'est les témoignages de parents.
Alors, dernière question avant de redonner le titre du livre. au travers, parmi tes pairs, PAIRS, parmi la communauté médicale, est-ce que là aussi tu as eu, enfin, quel accueil est-ce qu'il y a eu concernant ce livre, en tout cas le discours que tu tiens? Est-ce que tu ressens que les médecins deviennent plus sensibles à cet argumentaire-là, ou est-ce que ça reste encore une communauté un petit peu fermée sur, concernant les, comment dire, les médecines alternatives ou les pistes en tout cas originales, singulières, qui sortent un peu
un petit peu fermé, non, très fermé.
Ah, très fermé.
Ouais.
D'accord.
Je suis considérée par l'hôpital, par les gens sérieux, comme quelqu'un de vraiment farfelu. Une secte, ou, vous voyez, ce genre de choses-là.
Ok, et ça, comment tu l'expliques? C'est cette espèce de peur de sortir des jalons de...
Il y a beaucoup de peur, ouais, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'ignorance. Mais ça commence à changer, hein, parce qu'il y a quand même des médecins, même s'ils sont sur les vieilles idées de l'autisme, qui ont eu quand même l'impression que, que les facteurs environnementaux
jouent un rôle. Ouais,
ça commence gentiment.
D'accord. Bon, eh ben, c'est très bien. Merci beaucoup. Docteur Françoise Berthoud, auteur du livre « Autisme, le grand espoir d'en sortir, prévention, alimentation et traitement détoxifiant », c'est paru aux éditions Jouvence Santé et c'est préfacé par la doctoresse Corinne Skorupka, je prononce bien, Skorupka, et le fameux professeur Luc Montagnier, dont on salue effectivement le travail, hein, parce que c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, et lui aussi a dû se confronter à une doxa et a dû la combattre pour arriver à produire le discours qu'il produit. Merci beaucoup et puis courage pour la suite des opérations.
Merci.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise...